Alors, 7h17, bonjour Pierre-Yves.
Bonjour.
On va parler de Facebook, là. On sait que hier, la compagnie a confirmé que au maximum, il y a 87 millions de comptes qui ont été siphonnés avec les infos personnelles des membres. Ça, c'est une chose. On parlait de 50 millions au début. Là, peut-être au maximum 87. Est-ce que ça fait mal sur le plan financier à Facebook?
C'est ce qu'on va voir dans quelques semaines, parce qu'on va voir les résultats trimestriels. Parce qu'au-delà du scandale, Paul, il y a ce qu'on appelle la prééminence de la substance économique sur la forme juridique.
Hey, là, l'impact réel. Il est 7 heures le matin, là.
Excuse-moi, Paul. Je fais semblant d'être intelligent avec des gros mots. Dans le fond, c'est quoi l'impact économique réel par rapport à tous les enjeux technologiques ou légaux ou ce que les gens vont dire et j'ai un risque pour ma confidentialité. Bon, oui, le titre a perdu, Paul. On est passé de 185$ à près de 159. C'est une chute depuis plusieurs semaines. On a perdu 15% depuis un mois. Mais dans les faits, dans mon réseau, dans le réseau des gens, est-ce qu'il y a un désabonnement massif? Il y a même une blague, les gens disent sur Facebook, je viens de fermer mon compte Facebook. Tu comprends? C'est comme une blague. Mais si on y pense, nos contacts sont là, les courriels sont là, beaucoup de communications passent par là. Est-ce que la confidentialité de mes données vaut plus cher que la gratuité et le réseau auquel ça me donne accès? Et ça, c'est la question que beaucoup d'utilisateurs vont se poser. Et il y a une grande part des utilisateurs qui, personnellement, se disent « ça me dérange pas, ma confidentialité. J'ai rien à cacher ou je suis pas intéressant à voler. » Il y a des gens qui font vraiment ce calcul de risque-là. C'est une gestion de risque, un peu comme quand les gens prennent de l'alcool. Il y a un risque, mais on fait une gestion de risque. Hein? Oui, ça me rend un peu plus faible au niveau des facultés, mais je suis pas en train de mourir. Là. Non, donc, c'est un peu la même affaire.
J'allais dire, il y a des gens qui mettent tout de leur vie privée de toute façon sur Facebook. C'est accessible, là, c'est...
Puis il est déjà trop tard.
Puis bon, alors là, tu sais, ça les dérange pas. Puis je l'ai entendu souvent, là, de... Ben, c'est quoi le problème? S'ils savent à quel resto je vais, puis quels sont mes goûts, puis bon.
Parce que Big Brother, ça fait pas peur à tout le monde.
Non.
Tu sais, puis plus vous êtes connu ou plus vous avez une personne importante dans le milieu des affaires, plus vous avez des choses à cacher, plus c'est effectivement sensible. Mais Paul, tu sais, 1,4 milliard d'utilisateurs quotidiens. Donc, même si le 87 millions qui étaient affectés avaient été avertis et fermé leur compte Facebook, ce serait pas vraiment matériel sur le monde. Et si on regarde, il y a 66% des utilisateurs mensuels qui vont au moins une fois par mois, mais qui y vont tous les jours. C'est un taux d'utilisation extrêmement élevé. Et là, quand on dit 1,4 milliard par jour, c'est plusieurs fois
mais moi,
par
ce
jour.
Qui m'intéresse, ben oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir les 600 000 Canadiens qui ont vu leur compte comme ça siphonné par la firme informatique, l'info a été achetée par qui, là? Je veux dire, ça a servi à qui au Canada? Pour avoir de l'info sur ces Canadiens-là, là, puis faire des algorithmes, puis des profils, puis avoir du data, qui s'en est servi?
C'est aussi... À quelle fin?
Ouais.
Et comment? Et quel a été l'impact? Ça aurait été le fun de le mesurer. Mais pour l'instant, on a 13 milliards de revenus pour un trimestre. Alors, la question, c'est au prochain trimestre, en Amérique du Nord surtout, est-ce qu'il y aura un impact États-Unis-Canada assez important pour faire baisser les 6,4 milliards de revenus? Si la réponse c'est non, ça veut dire que le côté économique l'a remporté et que le côté idéaliste ou le côté confidentialité aurait été négligé par les utilisateurs. En fait, probablement que la majorité des utilisateurs de Facebook ne suivent pas l'actualité assez pour savoir ça, Paul. Donc au bout du compte, ils sont comme protégés par la non-connaissance de l'événement.
Oui, c'est sûr. maintenant, on apprend ce matin que les revenus déclarés, donc le travail au noir là, par la bande, là, donc les revenus déclarés augmentent dans l'industrie du taxi depuis que on peut payer avec carte de crédit.
Bon, là, on a comme un dilemme parce qu'on sait d'un côté qu'il y avait beaucoup de fraude fiscale et qu'il y en a encore. Donc, si les revenus déclarés augmentent, c'est parce qu'il y a un plus grand pourcentage des revenus faits qui sont déclarés. Mais en même temps, tu as Uber de l'autre côté, donc c'est sûr que la captation de valeur du marché de Uber a été transférée de l'industrie du taxi à Uber ou, dans une plus faible proportion, des gens qui n'utilisaient pas le taxi avant et qui ont commencé à adhérer au taxi grâce à Uber, qui est quand même une faible proportion par rapport à l'industrie en général. Mais Paul, la question, c'est toujours une question de quota. Quand tu imposes un quota comme le gouvernement pour le taxi pour contrôler le nombre de taxis dans la ville, on ne voulait pas être inondé de taxis, deux, permettre à ceux qui en font de bien gagner leur vie, on crée un marché secondaire. Les gens se sont mis à échanger les permis de taxi à 200 000, 225 000, donc des valeurs importantes en se disant « ça vous permet de gagner des revenus relativement assurés parce que le marché est protégé ». Une fois que le gouvernement, pendant tout un mandat, fait à peu près pas grand-chose pour l'industrie du taxi, hein. C'est comme si on avait mis un couvert, on fait des projets pilotes, on accepte, mais on n'ose pas prendre de décision. Ben, pendant ce temps-là, les permis ont baissé de valeur. Alors, la question qui est soulevée, c'est que le gouvernement donne 250 millions. C'est la faute à qui? C'est qui doit payer? Est-ce qu'un chauffeur de taxi qui prend un risque d'affaires en achetant un quota sur le marché secondaire est responsable de l'entièreté de la valeur qui est perdue? Ou il dit non, dans l'environnement externe et politique, j'ai des gens qui ont changé les règles du jeu, comme dans plein d'industries, mais ici, on n'applique pas les mêmes règles du jeu pour tout le monde, donc le gouvernement est en partie responsable. Et après ça, on se demande quelle valeur on donne à chacun des permis de taxi, parce que les gens qui prônent le rachat des permis de taxi, il y a un problème. Le permis vaut quand même quelque chose. Le fait de pouvoir te promener sur la rue, de quelqu'un lève la main, tu l'embarques, il y a une valeur minimale. Mais maintenant, comment donner à Jean qui a un taxi, pas à Claude qui a un taxi?
Comment t'évalues ça, à partir de quels critères, là?
Ben, c'est ça, c'est ouais. Ça le débat, parce que là, on nous dit qu'à Laval, il y a eu moins de pertes de revenus à cause du bac qu'à Montréal. Question d'offre et de demande, mais comme on dit, comme on n'a pas toutes les données au noir et les données réelles, comment on fait pour avoir un vrai de vrai portrait de l'industrie? Alors, l'industrie se retrouve en même temps à être confrontée à « faut qu'on déclare nos revenus et il y a des compétiteurs ». Et là, je suis allé voir Paul, s'il y avait une occasion d'affaire, je suis allé voir sur Kijiji.
Pour trouver un permis.
Permis de taxi. Ça varie entre 95 000 à Montréal, puis 150 000 dépendant du secteur, puis de la voiture qui vient avec ou non, et du côté pressé de la personne de vendre. Mais l'industrie dit à peu près 118 000, mais tu vois que le prix demandé est encore en haut de 100 000 en moyenne, mais ça, c'est le prix demandé. Il y a des gens qui veulent sortir de l'industrie. Moi, si j'étais un acheteur, tu sais, puis je voyais les règlements du gouvernement qui sont variables, j'attendrais quand même avant de m'investir dans cette industrie-là.
Merci, monsieur. Bonne journée.
Salut.
7h24.